journal, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Stupeur et désolation dans le centre-est des États-Unis, 48 heures après le passage d'une noria de tornades meurtrières. Nous sommes à Mayfield, Kentucky. Des dizaines d'employés ensevelis sous les décombres de leur usine et une ville entière à reconstruire. À la une ce matin, il y a aussi la vaccination des enfants fragiles. À partir de mercredi, livraison des premières doses aujourd'hui. Emmanuel Macron chez Viktor Orban à Budapest, un adversaire politique, mais un partenaire européen pour le président français. La Nouvelle-Calédonie, après le non à l'indépendance. Et la gauche, après le non à la primaire proposée par Anne Hidalgo. Ça, ce sera le thème du grand entretien, Nicolas.
Oui, avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls à notre micro avec Léa. D'ici 20-25 minutes, amis auditeurs, appelez-nous dès maintenant. 01 45 24 7000.
Le pape, les évêques de France et le rapport Sauvé. Rendez-vous au Vatican pour en parler aujourd'hui. Nous serons aussi place de la Concorde à Paris où l'obélisque se refait une beauté. Et puis, loup y es-tu ? Mais oui, dans notre calendrier de l'Avent ce matin, un loup en slip.
France Inter.
Les Américains parlent d'une épidémie de tornades. La principale a tout ravagé sur son passage dans la nuit de vendredi à samedi, semant la désolation sur plus de 300 km dans le Kentucky. 80 morts dans ce seul état. Dans la ville de Mayfield, 10 000 habitants, il ne reste plus rien ou presque. C'est là que vous vous trouvez, Sébastien Paour, bonjour.
Bonjour.
Certains quartiers, Sébastien, ont été rayés de la carte.
Oui, notamment cette fabrique de bougies parfumées du sud de Mayfield où on faisait les 3-8 entre Thanksgiving et Noël. 110 personnes y travaillaient vendredi soir quand la tornade est passée d'après la direction. 93 en sont sorties vivantes, mais 8 y ont perdu la vie et 9 sont toujours portées disparues. Les pompiers continuent à l'heure où l'on parle de fouiller les décombres aidés par des chiens. Ils décrivent un amas de poutres, de tôles, le site est totalement à terre. Et ce n'est pas étonnant quand on parcourt la ville, quand les habitants qui reviennent chez eux découvrent par exemple un capot de voiture dans leur salon, dont le toit a été arraché par le tourbillon de vent. Les services radars de l'État ont commencé à analyser les débris qui ont été soulevés et projetés parfois des camions ou des school bus entiers, et parfois à des distances impressionnantes de l'endroit où ils étaient, comme ce rouleau de moquette éjecté d'un magasin et enchevêtré dans les roues de plusieurs pick-up qui sont garés de l'autre côté de la rue. Eh bien, les premières analyses de ces débris montrent que certains ont été emportés à 11 000 mètres d'altitude avant de retomber. C'est l'altitude de croisière des avions de ligne.
Sébastien Paour, envoyé spécial de France Inter à Mayfield, Kentucky. Une trentaine d'autres tornades se sont aussi abattues sur le Missouri, l'Illinois, le Tennessee, l'Arkansas et le Mississippi. 94 morts en tout. Et l'Agence américaine de gestion des catastrophes alerte. Ces événements météorologiques dévastateurs sont devenus la norme aux États-Unis.
France Inter, il est 8h04, la suite du journal. Florence Paracuelos.
En France encore, 44 000 nouvelles contaminations au Covid hier, 48 morts et 14 000 personnes hospitalisées désormais. Et la vaccination des enfants est une nécessité. Déclaration signée Jean Castex. J'en suis l'exemple vivant, dit-il. C'est ma fille de 11 ans qui m'a contaminée il y a quelques semaines. Et c'est justement ce mercredi que les enfants les plus fragiles pourront commencer à être vaccinés. La France attend ses premières livraisons de Pfizer pédiatrique aujourd'hui. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Qui sont les enfants concernés et à quoi ressemble leur vaccin ?
Alors un peu plus de 360 000 sont potentiellement concernés. Des enfants souffrant de maladies hépatiques, cardiaques ou respiratoires chroniques, de maladies neurologiques, d'obésité, de diabète, d'un cancer ou encore atteints de trisomie 21. Les 5-11 ans ayant un proche immunodéprimé pourront également être vaccinés. C'est ce qu'on appelle la stratégie de cocooning. Pour le moment, seul le vaccin pédiatrique de Pfizer-BioNTech a été validé par l'Agence européenne du médicament. 10 microgrammes, un tiers de la dose adulte. Deux injections seront nécessaires à 3 semaines d'écart. Les piqûres ne seront effectuées pour le moment que par un médecin ou une infirmière via une prescription médicale. Des lignes spécifiques devraient leur être dédiées dans certains centres de vaccination.
Et on attend toujours, Hélène, les feux verts pour étendre la vaccination à tous les 5-11 ans.
Oui, si le gouvernement s'est déjà avancé en parlant du 20 décembre, il reste encore des étapes. Deux avis sont encore attendus, celui de la Haute Autorité de Santé ainsi que celui du Comité consultatif national d'éthique. Ils doivent évaluer l'épineuse question du bénéfice-risque dans une tranche d'âge peu touchée par des formes graves. Les données en vie réelle des enfants américains et israéliens seront déterminantes. Elles sont attendues avant la fin de l'année. Dans les cabinets ou services de pédiatrie surchargés par l'épidémie de bronchiolite et autres maladies hivernales, les médecins estiment que quelques vaccinations symboliques d'enfants de 5-11 ans auront peut-être lieu fin décembre, mais la campagne ne commence commencera véritablement qu'en 2022, un petit peu comme l'année dernière avec la vaccination dans les EHPAD.
Hélène Chevalier du service santé de France Inter en Grande-Bretagne. C'est un raz-de-marée d'Omicron qui défère l'expression de Boris Johnson, qui avance d'un mois à l'ouverture du rappel de vaccins à tous les adultes et oblige les cas contacts vaccinés à faire un test antigénique tous les jours pendant une semaine. Londres estime que le variant Omicron sera dominant dans quelques jours.
Il est 8h06, Florence. Depuis 5 ans, il a fait le tour de toutes les capitales européennes.
Toutes sauf une, Budapest, capitale de la Hongrie de Viktor Orban. Emmanuel Macron lui réserve son dernier voyage aujourd'hui avant de prendre la présidence de l'Union européenne en janvier. Visite sous le signe de l'affrontement politique, populiste contre progressiste, comme un prolongement, Simon Le Baron, de la campagne électorale à l'étranger.
Emmanuel Macron a résumé ce qu'il pense de Viktor Orban jeudi dernier devant la presse.
C'est un opposant, adversaire politique, mais c'est un partenaire européen autour de la table.
Et les deux lui sont utiles. Le partenaire pour faire avancer ses projets européens sur le nucléaire ou la défense. L'adversaire pour forger son image de défenseur de l'état de droit et des valeurs de l'Europe. Comme un miroir de l'affrontement qu'il oppose à Marine Le Pen et à Éric Zemmour, venu justement ici même en septembre et en octobre faire des courbettes à Orban.
Vous avez fait le choix courageux de préserver votre beau pays de la submersion migratoire que veut organiser l'Union européenne.
J'admire sa politique, j'admire sa résistance à l'ère du temps, aux pressions en tout genre de la Commission, des Allemands et d'Emmanuel Macron.
Le président qui affichera, lui, son soutien à l'opposition. Dès son arrivée à Budapest, il ira se recueillir sur la tombe d'Agnès Heller, grande voix anti-Orban disparue en 2019. Puis il rencontrera dans l'après-midi ceux qui espèrent renverser le Premier ministre aux législatives d'avril. Viktor Orban, leader du camp nationaliste, Emmanuel Macron, chef de file des progressistes, un face-à-face soigneusement mis en scène, un pas de deux entre ses deux meilleurs ennemis, chacun dans son pays en pré-campagne électorale.
En Nouvelle-Calédonie, c'est reparti pour un nouveau cycle après le non massif à l'indépendance avec une abstention massive. Elle aussi, c'est un nouveau statut de l'archipel qui va devoir se négocier. Mais pas seulement, il y a bien d'autres priorités au-delà des questions institutionnelles, dit le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, interrogé à Nouméa par Mathilde Munoz. Ce matin.
En fait, il ne s'agit pas tant que la Nouvelle-Calédonie reste française. Encore faut-il que la stabilité politique, la paix sociale, la capacité à revivre, à faire revivre un développement économique se fasse ici. Les inégalités sociales, il faut bien comprendre qu'on est sur un rapport pratiquement de 1 à 10, là où dans l'Hexagone, le rapport est de 1 à 4. Cette question-là, elle est plus tolérable et d'ailleurs, elle vient nourrir aussi beaucoup de ressentis. On a mis beaucoup d'argent ces dernières années dans le nickel, je pense que c'était une bonne chose, mais chemin faisant, il y a encore beaucoup de tribus dans lesquelles il n'y a pas d'eau potable. Alors, l'eau potable, c'est, vous allez me dire, c'est pas l'État qui est compétent, c'est vrai. Mais on voit bien que ces questions, désormais aussi, vont dominer le débat local, notamment aussi la place faite aux femmes. Malheureusement, la Nouvelle-Calédonie détient un triste record des violences faites aux femmes, notamment dans le cadre intrafamilial. Autant de sujets que la jeune société calédonienne, les moins de 30 ans, entend bien traiter dans les temps qui viendront. Et ça, évidemment, il faudra qu'on soit au rendez-vous. En tout cas, c'est aussi le sens de ma présence. Mais il faut bien comprendre quelque chose depuis Paris. Ici, on n'imposera pas les choses.
Sébastien Lecornu dans le 5-7 de France Inter. Le pape aurait-il retourné sa soutane sur les questions de pédocriminalité dans l'Église de France? Il recevra aujourd'hui des représentants des évêques, un peu plus de 2 mois après la publication du rapport Sauvé. Et au Vatican, Bruce de Galzin, le ton a changé.
Quelques heures à peine après la publication du rapport début octobre, le pape exprimait douleur, tristesse pour les victimes.
Et anche la mia vergogna.
Mais surtout sa honte.
La nostra vergogna.
Notre honte.
La
ma
vergogna.
Honte. Pour la trop longue incapacité de l'Église à mettre les victimes au centre de ses préoccupations. L'empathie est réelle, sincère, mais 2 mois plus tard, dans l'avion de retour de Grèce, changement de ton. Lorsque l'on fait ce genre d'études, on doit être attentif à l'interprétation. Une situation historique doit être interprétée avec le contexte de l'époque. Entre-temps, François a reçu beaucoup de critiques du rapport. Et c'est pour cela qu'il devient plus prudent. L'Église de France en fait trop, selon certains. Les évêques réunis à Lourdes ont fait acte de repentance avec des prises de position qui engageaient aussi l'Église universelle. Le Vatican ne peut pas l'accepter. En affirmant le caractère systémique des agressions, les évêques ont-ils voulu mouiller toute l'Église? Finalement, le pape a entendu ces critiques et pour l'instant temporise. Il va écouter les évêques français ce matin et peut-être recevoir les membres de la commission Sauvé. Mais s'il les reçoit tout de suite, il leur donnerait une sorte de caution. Et s'il ne les reçoit pas, ce serait un désaveu pour les évêques français qui ont totalement endossé les conclusions du rapport. Rome, Bruce de Gelsin, France Inter.
Un professeur d'Angers mis en examen vendredi pour incitation à la discrimination et harcèlement moral, entre autres. Enseignant d'un lycée professionnel catholique, il aurait invité un de ses élèves musulmans à changer de religion. Joint par Le Monde, l'homme qui est aussi maire d'une ville de 7000 habitants encartée aux Républicains, a plaidé un trait d'humour mal compris. Des mers et des déchets, c'est parfois le quotidien des édiles gérer les dépôts sauvages dans leur commune. Et imaginez les parades, Julien Morcelli.
Première stratégie, le retour à l'envoyeur.
Ça sort du jardin, ça revient dans le jardin.
Le mois dernier, dans le village d'Ars-sur-Meurthe, en Meurthe-et-Moselle, c'est le maire en personne, Jean-Pierre Dessin, qui est venu rapporter ses encombrants à une habitante.
Voilà, je suis le maire de la commune.
Oui, mais monsieur,
je vous envoie pas de facture, je suis gentil.
Ça faisait plusieurs semaines qu'on avait des dépôts à cet endroit-là, des télé, des micro-ondes, des pots de peinture ouverts et autres. C'est pas possible, quoi.
Autre méthode à Nancy, où depuis cet été, la ville s'est carrément dotée d'une brigade anti-dépôts sauvages, à la recherche d'indices dans des tas d'ordures. Lionel Adam est l'adjoint à la propreté.
Nous recherchons à identifier les auteurs de ces dépôts en ouvrant les sacs, des tickets de carte bleue, des enveloppes, des courriers. Depuis le mois de juin, nous avons facturé 155 personnes.
Jusqu'à présent, le tarif, c'était 120 €, mais face aux incivilités qui persistent, le montant de l'amende vient d'être doublé. Décision saluée par l'association Gestes Propres. Selon sa déléguée générale, Carole Carpentier, 1 million de tonnes de déchets finissent chaque année dans la nature.
C'est énorme. Ça représente 100 tours Eiffel en poids. Si le service propreté n'a pas le temps de passer, il peut finir en mer, puisque 80% des déchets marins viennent de terre.
D'autant que selon l'association, 27% des Français reconnaissent avoir déjà abandonné des détritus derrière eux.
Et désormais, l'amende pour dépôt sauvage d'ordures peut grimper jusqu'à 15 000 €. Paris-Marseille, Paris-Toulouse ou Bordeaux-Nice, décidément c'est le retour en grâce du train de nuit. Le gouvernement veut lancer de nouvelles lignes entre 2026 et 2030. Annonce du ministre des Transports qui célébrait hier soir la relance du Paris-Briançon de nuit et qui promet aussi le retour des voitures-lits plus confortables que les voitures couchettes. Et à l'arrivée à Paris pour une virée touristique, on lèvera les yeux sur l'obélisque de la place de la Concorde, cadeau de l'Égypte à Charles X en 1830 en provenance du temple de Louxor. Il méritait bien un rafraîchissement. Le chantier a commencé, Lou Bourdi, confié à l'entreprise Karcher.
L'échafaudage de plus de 23 mètres de haut ne passe pas inaperçu. Les touristes des photos. Certains s'arrêtent pour regarder plus près. C'est le cas de ce Parisien d'adoption, passionné par ce monument en granit qui date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il vient chaque jour pour voir où en est le chantier.
Vous passez du temps ?
Que ça, je prends une chaise, je regarde toute la journée.
Ils vont refaire toutes les dorures, je suppose. Le pyramidion, il m'a l'air bien terne aussi, alors que normalement, il est bien doré.
Cette touriste venue de Reims a raison. L'obélisque abîmé par le vent et la pluie va être nettoyée de la tête aux pieds. Et c'est l'entreprise Karcher qui va s'en occuper. Ça fait plus de 30 ans qu'elle rénove des monuments du monde entier. Alors pas de panique, la pierre et les hiéroglyphes ne seront pas nettoyés à coups de grands jets d'eau.
Je suis Laurent Roturier, je suis le directeur de la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. Pour le socle et le piédestal, nous allons utiliser plutôt de la vapeur chaude. Et pour le monolithe, ça sera une utilisation avec beaucoup de précautions, évidemment, avec du micro-sablage.
Les travaux vont durer encore plusieurs mois. Les curieux vont donc devoir encore patienter.
Tous les échafaudages partout en même temps, le Grand Palais, l'Assemblée Nationale. Pour les touristes, oui, nous, on a la possibilité de revenir, mais pour les étrangers, c'est sûr que ça ne doit pas être marrant.
La fin des travaux est prévue pour l'été 2022.
En Formule 1, Mercedes ne digère pas la défaite sur le fil de Lewis Hamilton lors du dernier Grand Prix de la saison hier à Abu Dhabi. C'est le Néerlandais Verstappen qui remporte le sacre de champion après un dernier tour d'anthologie contesté par Mercedes, qui a déjà pu rejeter ses deux premières réclamations et qui va faire appel. Enfin, c'est l'heure d'ouvrir notre calendrier de l'Avent, comme tous les matins. Et qu'y a-t-il dans la 13e case ? Un loup en slip, tome 6 de l'album pour enfants. C'est le coup de cœur d'Amélie Perrier, intitulé Casse-noisette.
C'est le cadeau idéal pour votre petite nièce qui a peur du loup ou son père qui ne sait plus quelle histoire lui lire le soir. En fait, résume l'illustratrice Mayana Itoys.
C'est pour tous les gens qui portent des slips.
Car oui, l'idée de départ du loup en slip, c'est de dédramatiser les peurs des enfants. Avec son sous-vêtement rayé rouge et blanc, notre héros n'a vraiment plus rien d'effrayant. Lui-même a souvent les chocottes que Mayana Itoys dessine dans une géniale carte anatomique du loup.
On a imaginé des petits personnages qui sont à l'intérieur de nous. Il y a les chocottes qui nous font claquer des dents, il y a celles qui font du trampoline dans l'estomac, celles qui nous scient les genoux aussi. Et c'est la peur, c'est les chocottes.
Et quand il fait taire les chocottes dans la forêt interdite, le loup découvre comment on transforme génétiquement les noisetiers pour produire toujours plus. Une fable sur l'agriculture et sur le prix des aliments.
Ça pose la question de ce qu'on mange sans se poser de questions. Je pense qu'on met les parents dans l'embarras, parce que d'après moi, c'est les enfants qui vont poser les questions. Et les parents vont devoir y répondre. Du coup, ça oblige toute la famille à se poser des questions. Et si on peut rigoler en même temps, c'est pas mal.
Parce que les dialogues sont bourrés de jeux de mots et de clins d'œil pour les petits et pour les parents. Un album jeunesse drôle et intelligent.
Et pas cher, 9,99€ pour un loup en slip.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Stéphanie Fromentin, oui. La situation est assez classique, gris au nord, soleil au sud.
Oui, mais le tout se déroule dans le calme. Une épaisse grisaille va persister sur la moitié nord le plus souvent pour la journée. On pourra espérer quelques éclaircies sur le nord-ouest dans l'après-midi, mais elles auront du mal à percer les bandes brouillard tenaces. Le ciel se couvre même parfois et quelques gouttes de pluie survolent la Bretagne. Sur le nord-est, des trouées apparaissent en journée, mais le brouillard se reforme vite en soirée, à l'exception notable du relief, Jura et Vosges, qui restent dégagés. Et puis sur la moitié sud, c'est le retour du beau temps. La grisaille est beaucoup plus localisée, elle n'est persistante qu'en vallée de Garonne. Le soleil peut donc s'y déployer très largement. Ce retour au calme ne doit pas faire oublier que les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont maintenues en vigilance orange pour la crue importante de la Dour.
Et Mercure partagé oui. Entre les gelées et la douceur.
Bah c'est ça, ouais. Sous les brouillards et pardon. La grisaille, la fraîcheur est d'une rigueur toute hivernale, avec des gelées au réveil. En revanche, sous le soleil, il fait plus doux dès le réveil. Vous pourrez compter sur 5 degrés à Annemasse, 7 à Saint-Étienne, 11 à Paris, 13 à Périgueux et Marignane, 16 degrés à Menton.
Merci Stéphanie, et à tout à l'heure après le journal de 9h. France Inter, 8h17.